Comme chaque samedi, c'est un grand plaisir que j'ai à vous retrouver pour ce grand jeu où le but est d'apprendre tout en s'amusant, avec en plus beaucoup de flûte. Et je vous présente dès maintenant les trois invités qui vont jouer avec nous aujourd'hui, à commencer par Anaïs. Bonjour Anaïs.
Bonjour Thomas.
J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir dans ce grand jeu de flûte. Anaïs, après avoir vendu 500 000 exemplaires de votre premier album The Cheap Show et beaucoup d'autres albums sortis après qui contenaient, alors le premier qui contenait votre premier hit Mon cœur mon amour, vous êtes, je le précise, une des premières chanteuses en France à vous équiper d'une pédale de loop sur scène. C'est qui ça. Permet de vous sampler et qui permet de ne pas avoir de musiciens, notamment avec vous sur scène.
C'est ça, en direct, en live. Hein. Moi, j'ai jamais eu de boucle préenregistrée.
Voilà, tout est fait en live, en direct. Notre deuxième invité, PV Nova, bonjour.
Salut Thomas, salut tout le monde.
PV Nova, vous êtes musicien et youtubeur, vous cartonnez sur Internet avec des vidéos intitulées « L'expérience musicale » dans lesquelles, comme vous dites judicieusement, vous décomposez la musique. Vous êtes multi-instrumentiste et n'apparaissez jamais sans paire de lunettes de soleil. Vous êtes un peu à la croisée de Prince, Maître Gims et Norman fait des vidéos. Et enfin, je me tourne vers notre troisième invité, Jean-Baptiste Guillot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, Jean-Baptiste, le créateur d'un des meilleurs labels de rock, punk et chansons en France, Born Bad. C'était un disquaire à Paris avant de devenir un label. Born Bad, via lequel vous signez des artistes comme Frustration ou Julien Gasque, mais aussi réédité et archivé les scènes alternatives françaises des années 60, 70 et 80. Si nos auditeurs ne les connaissent pas, on ne peut que leur recommander les compilations Wiz, dont le volume 4 est sorti tout récemment, la compilation Chébran également, dans lesquelles vous exhumez des morceaux en général totalement inconnus et qui deviennent mythiques bien des années après. L'actualité, c'est l'album du chanteur, du musicien principal de JC Satan, Arthur Satan, qui sort et qui s'appelle So Far So Good, très prochainement. Alors un petit rappel des règles, évidemment, du jeu. Je vous pose des devinettes ayant un rapport avec l'histoire de la musique au sens large. Et à la fin, celui ou celle qui aura répondu au plus de questions repartira avec une splendide flûte. Une flûte qui nous est offerte aujourd'hui par les ateliers Patrick Laflûte, le grand fabricant de flûte, le facteur de flûte, comme il convient de dire dès lors qu'on parle d'un fabricant d'instruments avant ou de clavier, ou de quelqu'un qui sonne chez vous pour vous faire signer un colis qui contient une flûte en recommandé.
France Inter, Thomas VDB, qui veut gagner la flûte à bec ?
Apprendre en s'amusant. Peaufiner sa connaissance des styles musicaux en ne s'interdisant toutefois pas de prendre du bon temps. Étendre le domaine de ses connaissances musicales en creusant les thématiques pour refaire les fondations de sa culture pop, jazz ou musique médiévale en riant comme un véritable petit foufou, c'est aussi l'objectif de ce grand jeu d'été. Alors sans plus tarder, jouons tout de suite à qui veut gagner la flûte à bec. On est en train d'écouter le célèbre morceau « Les coups » sorti en 1966 et interprété par Johnny. Les paroles françaises sont signées Georges Haber, hein, qu'on embrasse parce qu'évidemment on le connaît bien. Mais il s'agit de l'adaptation d'un tube américain dont l'auteur-interprète est une figure célèbre de la soul et du funk. Qui est le compositeur de ce morceau ?
Eddie Floyd, Knock on Wood, sur Stax.
Alors, on me fait signe que c'est pas ça.
Ah oui.
Et j'en suis navré parce que j'étais là.
J'étais sûr de moi.
Ça fait plus Motown.
J'ai cru que
ça sent la Motown.
Ouais. C'est un standard de rhythm and blues 60, mais je croyais que c'était Eddie Floyd.
Donc je sais. Il n'y a pas un baby dedans. Il doit y avoir un baby dedans.
Il y a probablement un baby.
Ah non, c'est Uptight.
Uptight, c'est le
par les Dells, non? Un truc comme ça, non?
Non, c'est pas les Dells, c'est quelqu'un de beaucoup plus connu.
Marvin Gaye.
Al
Green.
Non.
Cherche dans les connus.
Attends, on cherche le compositeur. C'est de ce calibre-là.
Vous avez plein de bonnes réponses, mais il n'y a pas la bonne réponse. J'ai pas entendu la bonne réponse.
On cherche l'auteur ou l'interprète?
On cherche le compositeur de ce morceau.
Bill Wider.
Et interprète.
C'est un mastodonte. Charles,
un mastodonte qui voyait assez
Stevie
peu.
Wonder.
Stevie Wonder, c'est la bonne réponse donnée par PV Nova.
Donc, il a pas buzzé.
J'ai buzzé en même temps.
Vrai qu'on entendait plus Stevie Wonder que la flûte du buzzer. Donc Johnny Hallyday qui a repris ce morceau Les coups. Alors je sais pas si dans la version de Stevie Wonder ça ressemblait autant à un cours de bagarre. Parce que c'est vrai qu'on écoute la chanson de Johnny qui s'appelle Les coups, c'est vraiment.
C'est deux visions de l'amour différentes.
Johnny qui a repris et adapté beaucoup de titres américains, surtout au début de sa carrière, au point qu'on estime qu'un quart du répertoire de Johnny est constitué d'adaptations. Mais Johnny n'a pas fait que reprendre des chansons, évidemment il s'en est fait reprendre aussi, c'est le cas de Allumer le feu par le chanteur Armand Cazeneuve dit Cazoul.
Tourner le temps à l'oreille, revenir à l'état sauvage,
forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage.
Il y a le moment, là, attention, on arrive au refrain. Il arrive à le faire quand même.
Il a chopé le fa dièse.
Il a chopé. C'est un fa dièse ?
Pas du tout, j'ai dit ça au pif.
Ah bah ça, je sais.
Il y a une reprise de Johnny B. Goode qui est fantastique, qui s'appelle Johnny Sois Bon. Regarde, littéralement.
Par Johnny Sois Bon. Ouais. Par Johnny Hallyday.
C'est pas Eddie Sois Bon ?
Eddie Sois Bon.
Peut-être Eddie, c'est Eddie Sois Bon.
Et Hamlet de Johnny, je vous apprends pas l'existence de cet album.
Crâne qui tourne, tourne boule. Je sais plus, je l'ai vu en live en plus.
Ah, il a joué en live Hamlet, Johnny ?
En première partie d'un groupe à Vals-les-Bains, il y avait le groupe local. Pour déconner, il s'est amusé à tout reprendre. Hamlet à l'idée. Il faisait un lâcher de ballons gonflables avec des crânes et tout.
Il y a des concerts qu'on regrette de ne pas avoir vus. Certains, c'est les Beatles. Et moi, c'est ce groupe de baloches qui donc reprenait Hamlet de Johnny. On joue tout de suite avec une nouvelle petite devinette.
Only the very best reasonable request. This is too high a price to pay.
On écoute en ce moment, donc en 1992, paraît l'adaptation en anglais de l'opéra rock Starmania composé 15 ans plus tôt par Michel Berger. Il y a plein d'interprètes qui participent à ce disque. Il y a Céline Dion, qu'on embrasse elle aussi, Cyndi Lauper, Tom Jones et Nina Hagen. Parmi eux, le chanteur Kingsbury qui interprète le Only the Very Best qu'on vient d'entendre. La version du tube initialement chantée par Daniel Balavoine, SOS d'un terrien en détresse. Si le nom de Peter Kingsbury n'est pas toujours connu du grand public, sa voix figure sur plusieurs tubes puisqu'elle a été leader d'un groupe. Quel est le nom de ce groupe?
Waouh.
C'est vraiment ça.
The Kingsburys?
C'est pas tout à fait ça. Alors je peux vous aider en vous donnant la traduction littérale du nom du groupe qui est Robinet Rouge-Gorge. Si ça peut vous aider.
Ah ouais.
J'avoue que c'est vraiment de la musique des années 80. C'est vraiment de la musique quand t'écoutes.
Robin, c'est Robin quelque chose alors?
Pas mal.
Robin Sparrow?
Non, mais on se rapproche. Il y a Robin dans le mot, quoi.
Robin, c'est Rouge-Gorge.
Il n'y a pas énormément de groupes avec le mot Robin dedans.
Maintenant. Robin, c'est Rouge-Gorge, mais alors Robinet. Alors Robinet, j'en sais rien, je reviens dessus.
Alors, on écoute peut-être un extrait du groupe en question. C'est ce groupe. C'est vraiment de la musique qui donne envie d'aller s'acheter une R25 d'occasion. C'est vraiment, on est vraiment dans les années 80. Ah ouais, là vraiment, c'est genre. Ah, j'aime le faire ce catogan. Mais... toujours pas.
Non, mais je sais, Robinet, ça se dit tape, non?
Ouais, mais on peut dire aussi. Je crois que c'est Coq, en l'occurrence, c'est Robin qui se dit Rouge-Gorge.
Oui.
Ben voilà, donc c'est tout simplement, je vous donne la réponse, c'était Coq Robin.
Ah.
Ah ouais, c'est vrai que c'est.
Et pour Coq, t'as choisi la traduction Robinet.
Ouais,
parce qu'il avait d'autres.
Il y a d'autres raccourcis qui auraient été plus. Ouais,
comme l'animal, le coq. Hein,
on je sais pas si. C'est vrai que je sais pas si ça existe encore un gars dont le groupe préféré aujourd'hui est Coq Robin. C'est vrai, un gars.
En Angleterre,
en tout cas, je pars pas en vacances avec lui.
Ça, c'est une bonne idée. Un bon choix de JB Guyot. Une bonne réponse de moi-même, parce que j'imagine que je joue aussi. On va dire que le point est pour moi. Voilà, donc ne ratez pas la semaine prochaine une édition de Qui veut gagner la flèche à bec. Spécial Coq Robin, une nouvelle question. Get off my cloud. You don't know me and you don't know my style. Who be getting down when they come to a jam? Here I am, the Method Man. Patty cake, hey, the Method Man. Don't eat Skippy Jeff or Pete. Donc tous les fans de rap qui nous écoutent ont reconnu le Wu-Tang Clan et ce titre Method Man sorti en 93 sur leur premier album. Ce groupe mythique, le Wu-Tang Clan, ce groupe new-yorkais, a sorti en 2015 son 7e album. Je vous demande de quelle façon pas banale, je pèse sur les mots pas banale, cet album a-t-il été commercialisé?
Je vais tenter la cassette audio. En 2015.
Alors c'est une bonne suggestion, mais c'est pas la bonne réponse. Mais bon, on peut quand même féliciter les bonnes suggestions.
Ouais. Si c'est gentil.
Rouleau de cire.
En quoi?
Rouleau de cire.
En rouleau de cire. Non, c'est pas en rouleau de cire.
Hmm. On a le droit de te poser des questions pour.
Bah évidemment. Oui. C'est comme les grosses têtes. Hein, ouais. Je rappelle que c'est sur l'autre radio, mais bon, c'est un peu pareil.
Est-ce que c'est une façon qui existait déjà d'écouter de la musique?
D'écouter de la musique, oui, absolument. Donc c'est vraiment la façon qu'il a eu d'être commercialisé.
Ça passe par un support matériel.
Ça passe par un support matériel.
Absolument. CD, vinyle, tout ça. En fait, les objets étaient classiques.
Exactement.
Ils l'ont vendu uniquement avec des boîtes de lessive, par exemple.
Non, mais le mot uniquement se rapproche, nous rapproche de la réponse.
Uniclo.
Chez Uniqlo.
Non, c'est pas chez Uniqlo.
Only you.
Alors.
Ah. Ils ont vendu un seul exemplaire.
Ils n'ont fait qu'un seul exemplaire de l'album, exactement. Bonne réponse de PV Nova.
Merci.
Cet album a été mis.
Je veux la flûte. C'est quoi? C'est une soprano?
Je te la montrerai. Elle était vraiment achetée à 11 euros. Et c'est un album qu'ils n'ont fabriqué à un seul exemplaire, qu'ils ont vendu aux enchères 2 millions de dollars.
What?
Et je sais pas si vous vous souvenez de ce mec qui s'appelait...
De la polémique, quoi, évidemment.
Ah, c'était ça, le mec
du Big Pharma qui l'avait acheté, qui voulait pas le divulguer. Ça avait été un tollé autour de l'achat de ce disque, un des mecs les plus haïs au monde.
Exactement.
Qui s'était fait ce petit cadeau.
Exactement.
Ah, parce qu'il avait droit, en plus, du coup, de l'avoir que pour lui.
L'accord entre le Boutanclan et l'acheteur était que l'acheteur n'ait pas le droit de revendre ce disque, mais qu'il était autorisé à le diffuser gratuitement sur Internet. Et à ce moment-là, Martin Screlly, donc le mec qui a acheté le disque, a dit que l'album, il serait mis gratuitement en téléchargement si Donald Trump était élu, parce que c'était au moment des élections, et qu'il détruirait l'album si Hillary Clinton était élu. Et
c'est
Un bel enfoiré, hein, quand même.
On n'est pas dans le délit de sale gueule, et on n'est pas dans le délit de sale gueule, il a vraiment une bonne gueule de con.
Il va jusqu'à avoir un nom de méchant de James Bond. Le nom sonne méchant de James Bond.
Ah oui, je croyais qu'il y avait un James Bond dans lequel il y avait un méchant qui s'appelait comme ça.
France Inter. Qui veut gagner la flûte à bec? Thomas VDB.
Là, on est vraiment dans la bonne... Là, c'est vraiment la musique d'After au Puy du Fou. Là,
c'est vraiment... ça, c'est la Vendée.
C'est la Vendée. Alors là, on écoute actuellement la compagnie Maître Guillaume. Il n'y a pas que la compagnie créole dans la vie en termes de compagnie, il y a aussi la compagnie Maître Guillaume.
C'est le nouveau projet de Maître Gims.
Étonnamment, Maître Gims, un morceau sombrement intitulé « Branle et branle léger ». Alors ma question est simple, qu'est-ce qu'un branle? Alors sachant qu'il existe des branles simples, des branles doubles et des branles coupées.
C'est une vielle, un truc. C'est...
Une vielle? Oui, j'ai une autre question, qu'est-ce qu'une vielle à ce moment-là? Parce que
une vielle, c'est une espèce de, tu sais pas, de mandoline, harpe.
Non, c'est un instrument que tu tournes, je crois que c'est avant, si je dis pas de bêtises.
La vielle à roue. Mais qu'est-ce qu'un branle?
Une vielle, c'est une sorte de contrebasse baroque sans fret. Un branle, c'est un mouvement musical, a priori. C'est comme une bourrée, non? C'est pas...
Alors c'est une... Un peu comme une bourrée qui pour moi, alors peut-être je me trompe complètement, mais pour moi la bourrée est une danse, et auquel cas c'est une bonne réponse, parce que le branle est une danse d'origine française, remontant à la fin du Moyen-Âge, dans laquelle les danseurs se tiennent par la main, formant une ronde ou une farandole. Autant vous dire que c'est quand même l'univers de l'éclate. Les bras des danseurs se balancent au tempo de la musique, bon ça c'est la danse, on appelle ça la danse, et les pas de base exécutent un piétinement en alternant les appuis à gauche puis à droite.
Ça doit ressembler aux danses traditionnelles bretonnes en fait.
Ouais.
Je pense que c'est un genre de danse traditionnelle bretonne. On va passer à un autre univers musical pour la question suivante. Donc là, ce qu'on écoute, c'est Kiss, qui sont vraiment les champions, toute catégorie du maquillage et du pantalon spandex. Kiss, ce groupe qui a vendu plus de 150 millions d'albums, ce groupe de hard rock américain. En 1977, Kiss deviennent les héros d'un numéro spécial des célèbres bandes dessinées, les Marvel Comics. Et pour booster la promotion de cet album de bande dessinée, Kiss a recours à un procédé marketing tout à fait inhabituel. Quel est ce procédé marketing ?
Alors, je suis pas sûr, mais ils ont pas fait éditer des flippers qu'ils ont mis dans tous les bars, non? Kiss.
Alors, ils ont exactement fait des flippers, mais c'est vrai que Kiss c'était quand même les champions du merchandising, donc ils ont fait des flippers, ils ont fait des t-shirts et tout. Je parle spécifiquement vraiment de l'album de bande dessinée. Quel était l'argument marketing massif qui a permis à Kiss de booster les ventes de cette bande dessinée?
Le merchandising, ouais, comme t'as dit, j'ai souvenir les gamins que tu voyais qui étaient tous maquillés à l'image de leur idole.
Alors il y a vraiment quelque chose sur la bande dessinée qui faisait la différence.
Ah, ils vendaient une boîte de crayons de couleur avec
non, le maquillage. Ils auraient dû le faire, franchement, s'ils avaient eu l'idée de
ils
le faire.
Ils vendaient du maquillage avec peut-être.
Non, il n'y avait pas du maquillage.
C'était pas une sorte de ticket d'or, un truc que t'avais dans un exemplaire.
C'est au moins aussi inhabituel que ça. Alors c'est pas un ticket d'or, mais il y avait quelque chose de vraiment. la raison pour laquelle tous les gamins à l'époque ont acheté le comic Kiss.
Ils allaient les voir sans leur maquillage.
Non, ça s'est arrivé 3 ans après. En 1980, ouais. Ils ont enlevé leur masque, leur maquillage.
Ça a été un four, la tournée qu'ils ont fait sans masque. Absolument. Sans maquillage. C'est manager, il a dit, vous arrêtez vos conneries, vous retournez tout de suite vos maquillés.
Ouais, c'était pas
bon. J'ai billets.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que cette bande dessinée se vende à des centaines de milliers d'exemplaires?
C'est Kiss qui a fait ça.
Kiss, le groupe Kiss.
Ils ont promis un truc à quelqu'un qui trouvait le bon truc.
Alors, je vous donne un indice, un rapport avec l'encre du magazine.
Il y avait du LSD dans l'encre?
Non, mais on se rapproche de quelque chose d'inhabituel qui a été versé dans l'encre.
De l'amiante.
Du sang.
Du sang, oh là là. Exactement. Ah. C'est la bonne réponse donnée par PV Nova. Devant un huissier, les membres de Kiss ont versé des échantillons de leur propre sang dans la cuve d'encre rouge de l'imprimeur des bandes dessinées.
Eh ben, je connaissais pas l'anecdote.
Ils sont forts en marketing.
C'était juste avant l'affaire du sang contaminé.
Avant l'affaire, exactement.
Ils ont arrêté.
Donc on écoute Ain't No Sunshine, ici joué par les Jackson 5. C'est un morceau paru initialement en 1971 sur la face B du premier 45 tours de son créateur. Et ce titre est vite devenu un tube international. Quel est le nom du compositeur-interprète de ce standard de la soul?
Mais c'est pas Bill Withers, justement?
Mais c'est Bill Withers.
Ah, mais j'ai sorti tout à l'heure, mais c'était pas le bon moment.
Ça a été très vite. Ah ouais, on n'a pas entendu le buzzer, mais bon, quand même.
Bill Withers, je trouve assez fascinant, parce que je suis pas fan de sa voix, mais il a écrit les plus gros tubes. Dès que c'est chanté par quelqu'un d'autre, ça devenait un énorme tube, et par lui, moi, ça me touche un peu moins. Je trouve pas que c'est un...
Ouais,
un
moi, Lovely Day, là, qui est fantastique, et à la fin, tu sais, il y a une espèce d'adlib, il fait Lovely Day, il fait une note super aiguë, il la tient longtemps, et t'entends, c'était avant l'autotune, t'entends sa voix qui fait Mais ça fait partie du charme du morceau.
Alors, faut savoir que sur ce morceau qu'on vient d'écouter, No Sunshine, les paroles n'étaient pas terminées quand il allait l'enregistrer en studio. Et au début, il a commencé par une version provisoire. Et à un moment, il commence à dire I know, et il le dit 26 fois parce qu'il n'avait pas les paroles qui étaient écrites.
C'est bon.
C'est bon là, il y a assez de fois.
C'est le mec à la console, il était parti pisser. tu reviens Bernard.
Tourne-moi la page de paroles. Et là il continue, là. I don't know. C'est surtout I don't know la suite, je pense. Mais
c'est peut-être le morceau qui a donné aux ingénieurs l'envie d'inventer la loop station qu'utilisait Anaïs sur scène après.
C'est une belle suggestion de nouveau de la part de PV Nova. Donc Bill Withers, on disait c'est le prototype de l'artiste qui a fait beaucoup de tubes, mais dont j'allais dire dont on se rappelle jamais vraiment du nom. C'est pas votre cas parce que tous les trois vous avez tout de suite tiqué sur
Lean on Me, c'est ça son gros tube.
Lean on Me, on écoute tout de suite un medley de Bill Withers.
To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on.
A lovely day.
Pareil, je pense qu'il avait une sorte de trou, parce que c'est vrai que Lovely Day, il le dit quand même, je sais pas s'il le dit 26 fois, mais il le dit quand même un certain nombre de fois. Il y en a un autre qui a pas mal écouté Bill Withers, justement, et il est rentré dans la playlist France Inter cette année. C'est Curtis Harding qu'on écoute tout de suite avec le morceau Hopeful.
Truly changed when you stare at the heavens.
the music motivated, I'm on melodic melody that moves and mediates. Evolution of change that pulsate the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gathered thicker than sofas, lie that don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, your crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the dollars will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, all the things that cause casualty to your soul, let it go. Most of all, we hope.
Inter. Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
Moi, je vais gagner la flûte à bec où l'un de nos trois invités, naturellement, va remporter à l'issue de cette émission la flûte à bec qui est à gagner. Nos invités, je le rappelle, qu'ils sont Jean-Baptiste Guillot du label Born Bad qui vient jouer avec nous. La chanteuse Anaïs qui me disait à l'instant, il y a un live qui doit sortir cette année qui a été enregistré à Zurich.
C'est ça. T'aimes bien le fait qu'ils sont enregistrés à Zurich. Ben, ça fait dis, classe, hein.
Ben, parce qu'on peut dire live in Zurich. Et je trouve ça. Que j'ai un peu live
Mood,
in Zurich.
Mood, qui est vraiment une salle que j'aime beaucoup. C'est... Et du coup, 15 ans après, je crois, je me suis fait connaître par un live, en fait, dont t'étais sorti mon cœur, mon amour. Et là, je crois que je peux sortir un live qui est pas la même chose.
Bah, ben, c'est pour la bonne simple raison qu'il est enregistré. À Zurich.
Zurich.
Ah, parce que c'est chanté entièrement en Suisse.
C'est en Suisse, allemand. J'ai invité Stéphane Echer.
Un yodel.
C'est bien. On a des versions yodel d'Anaïs. Voilà, je fonce, moi, tout de suite. Je vous propose de continuer à jouer tout de suite pour gagner la flûte à bec.
Je récupère du bois. Je sors ma scie préférée. Sous le soleil, je vais suer. J'ai mal au bras. J'ai mal au bras. Parce que moi, j'aime scier.
Moi j'aime scier par un traducteur qui a
le Francky Vincent.
C'est Francky Vincent exactement.
Ah ouais, c'est ça.
Qui a décidé vraiment clairement non plus de ne pas se fouler au niveau des traductions de tubes internationaux. Francky Vincent, c'est le roi du zouk grivois, près de 3 millions d'albums vendus avec des tubes comme 3 millions d'albums, mais c'est ahurissant quand même. Alors ces tubes, il y a Fruit de la Passion, Alice ça glisse.
Il y avait aussi Viens dans mon duplex, il y aura du sexe.
Alors, bah, c'est. Mais alors, il y en a d'autres vraiment. Il y a Tu veux mon zizi, hein, il est beaucoup plus cash, qui est la suite de Viens dans mon duplex, tu veux du sexe. Il y a Retourne-toi, il y a J'adore les moules, mon dieu. La braguette d'or ou encore Ma canne à sucre. Voilà, donc.
Il y a aussi Prout, ça pue.
Il y a Prout, ça pue.
Ouais. Et t'en alors, attention, aussi sur le, qui est bien sur le restaurant parce qu'à un moment donné, il avait mis des billes dans un restaurant.
Alors, écoute, on y vient.
Je te coupe sous pied. Je veux pas te gâcher ton effet, je te laisse.
Alors, le point est d'ores et déjà donné à Jean-Baptiste Guillot.
Très beau.
Fort de ses succès, Francky Vincent a ouvert en 2003, comme on l'entendait un instant, un restaurant en banlieue parisienne qu'il fermera soudainement quelques mois plus tard. Tous licenciés sans préavis. Ses employés ont assigné le chanteur en justice. Je vous demande quelle a été la réponse de Francky Vincent à ses ex-salariés.
À une chanson tout en finesse, une tout chanson, en nuance et subtilité.
Tout en finesse et en subtilité. C'est la très bonne réponse de Jean-Baptiste Guillot. On écoute un extrait de Droit de réponse.
Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres.
Bande de malpropres.
Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser.
Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde.
Francky Vincent, le restaurant,
c'est quand même assez étonnant de voir que... Enfin non, je me demande en fait comment il a eu l'idée de sa chanson.
Parce j'entends que... les choristes.
Eh oui, ben les non, choristes, ouais, ça fait tout. Tu les vois, on répète. Attends, tu veux qu'on fasse avec un personnel de merde ou on descend à la fin du merde, on fait comment?
Avec un personnel de merde. Voilà, moi tellement... je descends et toi tu montes avec un personnel de merde.
On entend tellement le sourire dans la voix des choristes. Et surtout, non mais j'adore, c'est que comment lui est venue l'idée de sa chanson à Francky Vincent, c'est qu'un jour il a gueulé à des mecs « Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky, bande de malpropres !» Et il s'est dit « Eh, mais j'ai une chanson là !» Et c'est quand même fou de se dire qu'il y a une chanson là-dessus. Alors évidemment, les familles qui nous écoutent en voiture, en ce moment, s'il y a des enfants à l'arrière qui disent « Eh, c'est pas bien ce qu'il dit le monsieur !» Bah c'est Francky Vincent, c'est pas bien effectivement ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle clairement des gros mots. On enchaîne tout de suite avec une nouvelle devinette musicale.
So gonna get to clapping. Go jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby, you deserve it.
Bruno Mars, qu'on entend actuellement avec son hit That's What I Like, qui n'a été visionné que 2 milliards de fois sur YouTube, nommé 27 fois aux Grammy Awards, 200 millions de singles vendus. Bruno Mars a commencé sa carrière très jeune puisqu'il est monté sur scène dès l'âge de 4 ans, jouant parfois 5 soirs par semaine avec le groupe de ses parents, tous deux musiciens. À cette époque et pendant plusieurs années, Bruno Mars avait une spécialité bien précise.
Imiter Elvis.
Bah, attends que je pose la question, ensuite tu donnes la bonne réponse si tu veux bien. Comment Bruno Mars a-t-il débuté sa carrière sur scène?
Non, c'est vraiment ça?
En imitant Elvis.
C'est exactement la bonne réponse. Il était sosie d'Elvis Presley. À l'époque présenté comme le plus jeune sosie d'Elvis, il a participé à plusieurs plateaux de télévision et fait de nombreux concerts en tant que Little Elvis, coaché par son oncle, également sosie d'Elvis professionnel.
Alors, et sa tante également, sosie d'Elvis.
Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'à l'adolescence, il va se concentrer sur une autre carrière, qui est sur la carrière de sosie de Michael Jackson.
Oui, oui, bah oui.
Et c'est vrai.
Il ressemble, ouais.
Bah, c'est vrai que quelqu'un qui arrive à être successivement sosie d'Elvis Presley et de Michael Jackson...
Mmh. Mais il ressemble en plus physiquement à Michael Jackson période Beat It.
Oh,
mais,
non.
Il y a un truc, dans les traits fins du visage. Il y a un
mais
truc.
Michael Jackson, avant, ne ressemblait pas à Elvis Presley. C'est ça qu'on dit vraiment. Quoi. Être sosie des deux, c'est quand même être sosie de Charles Pasqua et Bruce Lee. Quoi. Mais là, vraiment, chapeau, parce que je m'y attendais pas du tout. C'est une bonne réponse d'Anaïs.
Oui, ça, c'est quand tu restes jusqu'à 3h du matin sur YouTube, tu commences à, tu sais pas pourquoi, c'est puis tu apprends ce genre de choses.
C'est vrai que c'est YouTube qui a fait que vous êtes si calé, là. Parce que je
m'attendais
à la
base, en plus, elle regardait des vidéos de Bruno Mazur, et c'est,
Mais c'est vrai que quand tu tapes Bruno Mars dans YouTube, au bout d'un moment,
elle est tombée sur Bruno Mars, mais c'est l'algorithme qui l'a amené là-bas.
Bah ouais, c'est vrai que, mais je m'attendais pas à ce que vous trouviez les réponses à chaque fois avant même que j'ai terminé de poser la question. On va vite arriver à la fin de cette émission. On écoute tout de suite une chanson suivante. On entend donc le générique de Chapi Chapeau, repris par Philippe Catherine. Donc Chapi Chapeau s'était diffusé à la télé en France à partir de 1974. Ce morceau, il est signé d'un compositeur de musique de film français très actif du milieu des années 60 au milieu des années 70. Qui a buzzé en premier? Je crois que c'est JB.
C'est JB, ouais.
C'est François de Roubaix, si je dis pas de bêtises.
C'est François de Roubaix, exactement. Patrick de Tourcoing, comme on peut l'appeler également. Mais bon, François de Roubaix était son vrai nom. Qui a fait toutes les musiques, Le Vieux Fusil, mais également Dernier Domicile Connu, qu'on est en train d'écouter. François de Roubaix, qui a été très souvent samplé par des producteurs de musique électronique ou de hip-hop. Il est décédé à l'âge de 36 ans des suites d'un accident de plongée sous-marine. Et ce qui est assez curieux, c'est que beaucoup de gens ont chez eux le 33 tours des plus grandes musiques de François de Roubaix. Et à l'arrière de ce disque, il y a une photo de François de Roubaix qui est en train de plonger donc en homme grenouille à côté d'un énorme poisson. Et moi, quand j'étais petit, je regardais cette photo et je lisais qu'il était mort d'un accident de plongée sous-marine. Et j'étais là, mais les gars, prenez pas une photo, il va se faire bouffer par le poisson. Parce que je croyais que la photo avait été faite au moment de l'accident de plongée sous-marine, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça, c'est vraiment pour la petite anecdote personnelle.
France Inter. Qui veut gagner la flûte à bec? Thomas VDB. Now listen to the beat, a beat of the sound, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, a beat of the sound, a buzzing in my head, now head like a bomb down. Truth and checking through the book and like won't be fly. With them about the soul while having club. I see my song and I'm a racket. I'm burning up with a foot ass fever. Beat, beat, beat of a sound, song. Donc ça c'est King Kong 5 de La Mano Negra, le groupe formé en 87 par Manu Chao.
La Mano Negra s'inscrit dans le mouvement rock alternatif et punk en plein renouveau en France à la fin des années 80 aux côtés d'artistes comme Les Garçons Bouchers, Ludwig comme 88, les VRP, les Négresses Vertes. Et dans un sketch resté mythique, les Inconnus ont créé un groupe parodique qui se voulait le reflet humoristique de cette famille. Quel est le nom du groupe inventé par les Inconnus?
Il s'agit des Negra Bouche Beat.
La Negra Bouche Beat, bonne réponse. Bonne réponse de PV Nova.
C'est toi que je t'aime.
Et c'est vrai que ça a un peu cassé toute la scène alternative à l'époque.
Surtout le côté, il n'y a pas de leader.
Indochine qui a morflé. Hein.
Surtout Indochine.
Indochine avec
Isabelle les yeux bleus.
Paraît que ça a traumatisé de longues années Nicolas Sarkis.
Alors que je crois qu'à l'époque, les Inconnus ne croyaient seulement faire une parodie que de partenaires particuliers.
Ouais, c'est ça.
Alors que la carrière. On pensait que c'était Indochine qui singeait.
Tu faut remettre dans le contexte quand même de la puissance médiatique des Inconnus à l'époque qui passaient devant des millions de téléspectateurs. Et ils se foutaient de toi, et prêt pour le grand public, c'est vrai que c'était un motif de rigolade. Je pense
ils étaient super mélomanes aussi, parce que franchement.
Les chansons étaient super.
Oui, ils font ça avec amour. Ouais,
et même les interviews, justement, de les Negra Bouche Beat, c'est vraiment ça, le groupe alternatif. Il n'y a pas de leader.
Même le format même de l'interview était un peu une parodie des interviews qu'il y avait dans Rapido à l'époque de Antoine Decaune. Mais donc, c'est PV Nova qui est un peu spécialiste des parodies quand même. Il y a beaucoup de parodies.
Oui, ça fait partie de mon escarcelle. Et puis aussi, avec de ce qu'on fait avec les Franglaises, on est dans le décalage, la reprise, quoi.
Oui, parce que j'ai pas précisé tout à l'heure que vous êtes aussi membre du collectif Les Franglaises.
Tout à fait.
On francise Cabrel, on francise plein d'artistes. Beaucoup d'artistes.
On traduit littéralement de l'anglais au français beaucoup de standards. Et évidemment, c'est un prétexte pour faire des bêtises sur scène, parce que le traduire des chansons, ça va 5 minutes, mais on fait un spectacle de 2 heures qui, en réalité, tu le sais, puisque tu as participé au spectacle.
Je fais semblant de pas connaître.
C'est une comédie musicale qui raconte l'histoire d'un spectacle qui va partir littéralement en brioche, comme on dit dans le jargon.
Je ne l'ai pas dit, il y a aussi une bande dessinée qui sort bientôt de PV Nova.
Tout à fait.
Qui s'appelle Splash.
Ouais. Que j'ai fait avec un co-auteur et un dessinateur, Le Ray et l'Hostie, et c'est une BD qui parle de musique, ma toute première BD chez Dupuis. Et alors, avec du recul et l'anecdote de tout à l'heure, je me dis que j'aurais peut-être dû verser mon sang dans
c'est
la BD.
C'est vraiment vraiment l'idée bête hein, de
ou
pas
alors
avoir fait ça.
Qu'un
c'est...
seul exemplaire à 2 millions, tu vois.
Écoute, voilà, peut-être qu'il y a un auditeur qui est intéressé pour être acheteur. Voilà, il t'envoie un mail, je pense, sur les réseaux APV Nova.
Ça sort fin août chez Dupuis. Il y aura un album musical qui accompagne l'album de bande dessinée.
Les fameux albums à écouter en lisant les bandes dessinées.
Exactement.
Qui veut gagner la flûte à bec? Hein?
Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de la mine à la mort. Elle pose la main sur ma joue et ma pudeur.
On écoute tout de suite Amour Amitié, sorti en 1970 par un chanteur à l'époque influencé par Bobby Lapointe à ses débuts. Les premiers succès de cet auteur et interprète de cette chanson l'ont conduit à faire les premières parties des Beatles à l'Olympia, à tourner avec Claude François et Sylvie Vartan. Mais c'est en 73 qu'il va connaître un immense succès, se classant numéro 1 des ventes avec l'adaptation en français d'un tube brésilien. Quel est le nom de ce chanteur?
C'est Pierre Vassilieu.
Pierre Vassilieu, qui est effectivement l'auteur, compositeur de cette chanson « Amour, amitié ». Pierre Vassilieu, qui s'est fait connaître avec son autre tube, qui s'appelait « Qui c'est celui-là ?», mais qui était à l'origine, enfin c'est vrai que c'était son grand tube en France, oui, qui était à l'origine une chanson brésilienne de Chico Buarque. Et donc repris par Pierre Vassilieu, ça donne ça.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga.
Et là, nécessairement, la question est un petit peu orientée vers Jean-Baptiste Guillot, parce que vous avez sorti récemment, je sais pas,
j'ai sorti plusieurs disques qui étaient évidemment dédiés à Pierre Vassilieu avec l'aide de Guido Cesarski de Acid Arab. Donc voilà, j'avais un coup d'avance sur mes concurrents.
Comme je sais que vous êtes un archiviste, alors un collectionneur, c'est une chose, mais que vous rééditez, comment ça se passe quand vous décidez, par exemple, quand vous jetez votre dévolu sur Pierre Vassilieu, à un moment de dire je vais consacrer des compilations
entières? Ce qui m'a plu avec Pierre Vassilieu, c'est que j'avais l'illusion et le sentiment de bien le connaître, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde connaît Pierre Vassilieu, et puis en définitif, quand on creuse un peu, si ce n'est qui c'est celui-là, on se rend compte qu'on ne connaît pas du tout. Et comme beaucoup d'artistes, on pense à Lino Ferrer et Mirza, on pense à Henri Salvador et Zorro est arrivé. Beaucoup d'artistes comme ça ont eu des carrières qui ont duré des dizaines et des dizaines d'années, et on s'aperçoit qu'ils sont éternellement résumés à une chanson, un titre. Et c'est vrai qu'à l'ombre du personnage un peu rigolo qu'on imaginait, qu'on voyait sur plateau de télé, le gars un peu goguenard, bonhomme avec sa moustache, il y avait un artiste qui a fait un nombre invraisemblable d'albums, plus inspirés, plus profonds les uns que les autres, quoi. Et l'idée de ces rééditions, évidemment, c'est de mettre la lumière sur tous ces titres, tous ces morceaux géniaux.
Moi, tu me dis Pierre Vassilieu, je pense au Bronzé. Tu vois, c'est pour te dire à quel point.
Ouais, et c'est ça, c'est éloigné justement, tout ce qu'on entend. C'est le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire inviter les gens à s'intéresser à la musique de Pierre Vassilieu, quoi, qui est vraiment, c'est un artiste majeur, vraiment. Et c'est triste qu'il ait été résumé ainsi toute sa vie au mec un peu rigolo et amusant.
Donc il est parti en 84 ouvrir un club de jazz au Sénégal et 2 ans plus tard il est revenu en France sans le sou. Il a été hébergé par Coluche qui lui a proposé de camper dans le jardin de sa villa.
Et il a fait une chanson pour régler ses comptes avec les employés du club de jazz.
Thomas qui m'en regarde. L'ancêtre de la chanson de Francky Vincent. Tout de suite, un nouveau morceau. C'est en 1953 que le chef d'orchestre Enrique Jorin compose et enregistre le standard de la musique cubaine qu'on écoute actuellement intitulé La Enganadora. Ce morceau est généralement considéré comme le premier d'un genre musical qui va connaître une immense popularité dans le monde entier pendant les années 50. Quel est le nom de ce style musical?
Est-ce que c'est le merengue?
Le cha-cha?
C'est le cha-cha-cha, ah, bravo! Alors il manquait un cha, mais c'est pas grave. Bravo Anaïs, c'est la bonne réponse. Enfin, c'est 2/3 de la bonne réponse quand même. Le cha-cha dérive du mambo, dont il se veut une simplification dans
C'est avant le mambo.
Oui, bah écoute, ne me casse pas les pieds non plus.
C'est juste avant le mambo.
Alors, c'est dont il se veut une simplification dans le but d'aider les danseurs à se repérer plus facilement. Donc effectivement, c'est arrivé après ou avant le mambo?
Oui, c'était avant. Oui.
Non, le mambo, c'est
juste
avant
le cha-cha. Ah non, le mambo, oui, je confonds avec la salsa qui est arrivée juste après. Ouais.
C'est un peu ce que la branle est à la bourrée, quoi.
Voilà, c'est ça. Écoutez, on va faire un schéma, peut-être qu'on mettra en ligne sur le site de France Inter.
Mambolant, alors.
Et le rythme syncopé est celui du mambo sur un tempo un peu plus lent, mais les mélodies sont simples et posées sur les temps. Alors, une qui aurait trouvé tout de suite, en tout cas, la réponse à cette question, c'est celle qu'on écoute, qui est aussi en playlist de France Inter. Elle s'appelle Bonnie Banane. Et je me dis, c'est quand même une bonne nouvelle pour elle. Il y a une chanteuse, d'ailleurs, qui s'appelle Pomme récemment. Je me dis, faut qu'elle fasse un duo, ça va nous ramener à l'univers de la compote.
Appelle-toi, appelle-toi, appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi, quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
La température a grimpé. Quand tu m'as accompagné, soudain j'ai trouvé une idée pour cacher ma timidité.
C'était qu'une simple démonstration. J'étais prêt à l'essai. Juste une façon de faire diversion avant que ça dégénère.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha.
Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue.
Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai, histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves,
t'énerve pas.
Je veux rentrer chez toi.
T'es dans tous tes états.
Baza boum boum patatra.
Mais t'es plus fort que ça.
Tu retombes sur tes pattes comme un chat.
Chapeau bas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. T'es comme moi, tcha tcha tcha. À deux pas, tcha tcha tcha.
Inter. Qui veut gagner la flûte à bec? Thomas VDB.
Bonnie Banane, à l'instant qu'on écoutait, qui je pense est officiellement le seul nom d'artiste avec le mot banane dedans, avec Bananarama, je n'en connais pas d'autre. On joue tout de suite pour gagner la flûte à bec. Donc la campagne présidentielle de 81 bat son plein quand Lenny Escudero sort cette chanson intitulée « Le point et la rose ». Mitterrand voulait en faire l'hymne du Parti Socialiste, mais quand on demande au chanteur engagé d'en modifier quelques paroles, il refuse catégoriquement. Cependant, d'autres artistes vont apporter leur soutien au mandat socialiste, et en particulier une chanteuse et compositrice qui, le soir du 10 mai 81, écrit une chanson célébrant sa victoire. Je vous demande quel est le nom de cette chanteuse.
Est-ce que ce ne serait pas Mireille Mathieu?
Pas du tout Mireille Mathieu. C'est plus Sarkozy. C'est plus Sarkozy quand même, Mireille Mathieu.
Oui, c'est ça, en fait. Parce que je la vois sur le podium.
C'est plus Poutine, Mireille Mathieu.
C'est presque plus Poutine.
Non, mais c'est vrai. J'ai une image d'elle sur la place rouge, ah, bah, devant 10 000 Russes.
Voilà, donc c'est clairement pas Mireille Mathieu pour l'élection de Mitterrand. Non. Clairement pas. Alors, qui ça peut bien être?
Elle a fait une chanson le soir même de l'élection.
Le soir même. Chanson qu'elle a chantée 3 semaines plus tard en concert et les gens ne savaient pas du tout ce que c'était.
Michel Thor.
Non. Et quand les gens ont commencé à comprendre que la chanson en concert faisait référence à ce qui s'était passé 3 semaines plus tôt, on entend les gens se mettre, on va peut-être écouter tout simplement le morceau.
Est-ce qu'il y a Banane dans son nom d'artiste?
Il n'y a pas Banane. Okay, ça, c'est un indice, il n'y a pas Banane dedans. Mais pas loin, ça commence pas comme Banane. Je propose qu'on écoute tout de suite.
Brigitte Bardot.
C'est pas Brigitte Bardot non plus.
Sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé. C'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain.
C'est exactement Barbara. Et c'est PV Nova. Merci. Qui nous a donné la bonne réponse alors que les micros étaient fermés. Ouais. Donc, mais bravo PV Nova, c'est Barbara. qui a écrit cette chanson donc le soir de l'élection de François Mitterrand. Il y a aussi Charles Trenet, vraiment Charles Trenet. Il fallait vraiment une occasion comme ça pour que j'en parle de lui, parce que Charles Trenet, s'il y a quelqu'un qui est pas spécialement mon idole, voilà. En tout cas, il faisait partie des soutiens au candidat sensualiste, et apparemment 10 ans après sa mort, un collectionneur a sorti la maquette d'un morceau de Trenet qui s'appelle Vas-y Tonton, qu'il aurait chanté lors de meetings, mais qui ne fut jamais publié.
Vas-y Tonton, vas-y Tonton.
Et là, on est vraiment content de l'entendre pour la première fois. Ah ben top, enregistrez les auditeurs là, franchement, parce que elle n'a jamais été publiée, cette chanson.
C'est marrant, le style musical et le ton fait plus penser à du soutien de Jean-Marie Le Pen que François Mitterrand.
Ah clairement, on a vraiment le...
Vas-y Tonton,
on sait pas comment ils chantent, mais on sait que c'est en noir et blanc quand ils chantent, ouais. Là vraiment. Bonne réponse donc de PV Nova. On va faire un petit point sur les scores quand même, sachant que je n'ai noté, je vais être très honnête avec vous, aucun score. Donc je pars du principe que c'est 2-2 et c'est très serré.
c'est très serré
au niveau des scores. On va arriver dans les questions qui vont commencer à nous départager. Alors, comme As You Are de Nirvana, paru en 1991 sur Nevermind, qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, on le sait peu, mais ce légendaire groupe de rock Nirvana, ce légendaire, a repris une chanson originellement composée par Jacques Brel. Je vous demande, de quelle chanson s'agit-il ?
Est-ce qu'on connaît la version française de...
De Jacques Brel ?
Oui.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vous aide.
Je l'ai su, mais j'ai oublié.
Ah, c'est pas de l'homme de la Mancha, là ? C'est pas l'irrésistible.
Non. Alors je vous aide.
Ça rappelle des covers de Bowie, évidemment.
Oui, oui. Non, mais il y a un lien. Ça peut faire penser à ça, parce que c'est-à-dire que David Bowie s'est fait connaître en reprenant des chansons de Jacques Brel, qui en réalité étaient de reprises de Jacques Brel, qui étaient des reprises de Scott Walker.
If I could be only an hour.
Non, alors ça c'est Scott Walker.
C'est une reprise. Je l'ai su, mais j'ai oublié, moi, perso.
Alors, donc la reprise, le morceau de Jacques Brel, vous pouvez dire des morceaux de Jacques Brel. Si vous connaissez pas le morceau de Jacques Brel, c'est pas grave, c'est pas...
Les marquises, les...
Non.
Les bourgeois, c'est comme les cochons.
Ne me quitte pas. Non, c'est pas ça.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, je vois bien Nirvana chanter ça en même temps en anglais. Hein.
Non, ouais, c'est pas ça non plus. Alors, on écoute la chanson de Jacques Brel qui a été reprise par Nirvana.
Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton rôle.
Qui était une reprise de Terry Jacks qu'on écoute maintenant.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed.
Et qui a donc été repris par Nirvana. Avec peu d'entrain quand même. Avec plus
dans la nostalgie, ouais. Moi j'ai une anecdote sur Nirvana, je pensais que t'allais y venir, mais on t'a laissé faire la question. Tu sais que la guitare du live Unplugged MTV est la guitare qui s'est vendue le plus cher aux enchères. Elle a le record, et ça c'est assez connu, mais ce qui se sait un petit peu moins, c'est mon ami Patrick Beau, qui est un grand curieux, qui m'a dit ça l'autre fois, c'est que le gilet qu'il porte pendant le live MTV
Unplugged, le gilet troué,
il s'est vendu 260 000 $ aux enchères environ. De mémoire, c'est cet ordre d'idée, et c'est le gilet le plus cher vendu aux enchères.
C'est fou
de se dire il a donné son chèque, il a dit je me disais qu'il manquait quelque chose pour sortir les poubelles.
Oui, c'est ça, c'est exactement le truc de Thierry Lhermitte qui reçoit en cadeau. Mais c'est fou, c'est de se dire que ces fans de Nirvana des années 90 qui n'avaient pas d'argent de poche, ils avaient 14 ans et tout, il y en a forcément aujourd'hui qui ont fait fortune au point de se dire, et de leur vie, ils n'ont jamais lâché leur rêve, ils se sont dit ouais, mais j'achète direct. Je veux dire, j'ai de la thune depuis que je suis fan de Nirvana, j'ai emmagasiné pas mal d'argent. Bah tiens, on écoute une nouvelle chanson. Donc là, vous avez tous reconnu évidemment le premier mouvement du concerto numéro 2 pour mandoline de l'italien Calace, hein, ça on l'a reconnu tous.
Oui. Calache en français.
Calache, oui, mais j'aime bien. Qui vécut au début du XXe siècle et qui fut à la fois luthier de mandoline, virtuose de l'instrument et compositeur prolixe, qui a créé un répertoire de près de 200 œuvres pour la mandoline. Voilà, comme ça si on vous demande, on pourrait pas dire que vous ne saviez pas. Et la mandoline, tout comme le banjo, le oud ou la guitare, se joue avec un petit ustensile tenu entre le pouce et l'index, communément appelé médiator. Quel est l'autre nom que l'on donne à cet accessoire indispensable?
Voilà, c'est cheaté. Moi, j'ai fait des vidéos qui parlent que de ça, où j'appelle ça un plectre.
C'est un plectre! Bravo! Alors, ça, il fallait savoir.
C'est mon domaine de compétence, ouais. C'est un peu carabistouille et compagnie. Hein. La question était pour moi, là.
Vraiment, le plectre, c'est
du copinage.
C'est un de tes sujets de conversation préférés.
Et en anglais, ça se dit donc guitar pick ou plectrum. Tu peux même, t'as la version plectrum qui est fantastique à utiliser aux États-Unis ou en Angleterre.
Alors le plectre, en fait, c'est le médiator d'avant, en fait, un petit peu, hein, c'est ça.
C'est un caillou.
C'est un genre de caillou. Ce qui permet de gratter.
Ce qui est étonnant, c'est que je pense que c'était vraiment le nom pendant des années. Et ce qui m'étonne, c'est que médiator est un mot à consonance anglo-saxonne, mais qui est pas le mot anglais, parce que eux disent un pic. Donc je sais pas d'où ça vient. Ça fait partie de ces mots comme parking qu'on a un peu.
Oui, d'accord, que eux n'utilisent pas.
Voilà, mais on fait genre ouais, c'est classe, c'est un médiator.
Et voilà, et donc le son de l'instrument change en fonction du matériau dans lequel il est fabriqué. Évidemment, il y a des plectres en corne, en bois, en cuir, en feutre, en écaille de tortue. Il paraît que Francis Cabrel joue avec ses ongles de pied. Vraiment, je l'ignorais complètement.
Thomas VDB, qui veut gagner la flûte à bec ?
Toi, rien que toi, oui que toi, encore toi, toujours toi. Partout toi, tout pour toi, tout par toi, tout de toi, tout en toi.
Alors, on écoute Edith Piaf. Mais il faut savoir que tout le monde ne porte pas dans son cœur cette gloire nationale. Une chanteuse française très connue a déclaré à propos d'Edith Piaf, ouais, c'était une femme très méchante, diaboliquement méchante. Elle était jalouse des femmes plus jeunes et plus jolies. Elle était folle et jalouse. Qui est cette chanteuse donc qui a des années après, on peut bien le dire, bavé sur Edith Piaf?
Tu vois là par exemple, on sort de mon domaine de compétences.
Ouais, bah ouais, du mien aussi.
Par contre, j'ai repris Ouragan moi.
Ben je sais bien, on allait y venir, mais non.
Alors, est-ce que c'est une chanteuse qui l'a connue, qui
était... Oui, nécessairement.
Ouais. Contemporaine de Piaf, ouais.
Ouais.
Suzy Delair?
Non.
Est-ce que c'était une chanteuse sérieuse aussi, un monument national, ou plutôt période yéyé, tout ça?
Encore monument national, j'ose dire encore aujourd'hui, en tout cas encore en vie aujourd'hui.
Vartan?
Une chanteuse non. Ou une comédienne?
Chanteuse et comédienne.
Françoise Hardy?
C'est pas Françoise Hardy. Alors, qui est cette chanteuse donc et actrice encore vivante aujourd'hui qui a donc dit d'Edith
Piaf ? Lynn Renault.
C'est Lynn Renault. Bravo. Ouais. C'est exactement Lynn Renault qui donc ne portait pas du tout dans son cœur Edith Piaf. Et donc vous nous disiez à l'instant Anaïs que vous avez vous-même repris le morceau Ouragan d'Edith Piaf. On l'écoute un petit peu justement.
Un ouragan.
Parce que cet album Allo Javel que vous avez fait en 2012, Anaïs, ne contient que des reprises de chanteuses, on va dire, un petit peu désuètes aujourd'hui.
C'était
pas
un album
dans l'oubli, mais c'est vrai que vous avez eu envie de faire connaître des chanteuses qui étaient...
C'est ça, j'ai voulu faire un album de reprises pas connues. Ça n'a pas beaucoup plu au label, forcément. Ouais. On a quand même rajouté une ou deux connues du coup, mais c'est vrai que c'était pour moi, c'était important de dire d'où je venais. Pour moi, je venais de la chanson réaliste, fantaisiste, qui était très oubliée. Et ça, Ouragan, c'était venu en plus. On a vraiment fait des sessions complètement barrées avec les musiciens et on est parti là-dessus. Parce que je trouvais que, pareil, elle était un peu à part dans la carrière de Piaf. Enfin, il y a plein de chansons comme ça chez Piaf. Il y a les blouses blanches aussi de Piaf qui est très particulier. J'aimais bien un peu aller fouiner là-dedans sur cet album qui n'a absolument pas marché.
Cet album donc qui s'appelle Allo Javel et c'était donc la dernière réponse de ce jeu puisqu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Voilà, donc je remercie mes trois invités d'être venus avec moi jouer pour gagner la flûte à bec. Évidemment, j'ai pas noté les scores, donc c'est Anaïs qui a donné la dernière bonne réponse. Et c'est Anaïs qui remporte la flûte à bec. C'est magnifique. Alors vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez gagner...
Elle est rouge en plus.
Elle est rouge, vous pouvez gagner une flûte à bec.
C'est la flûte à bec YouTube.
C'est la flûte à bec France Inter, surtout. vous pouvez jouer, chers auditeurs, à notre grand jeu concours de l'été sur Twitter, hashtag flûte à bec, pour vous aussi gagner une flûte à bec en reconnaissant le morceau de la semaine. À la technique aujourd'hui, il y avait Benjamin Orgeret, merci à lui. Les questions ont été préparées par Sylvain Moser, Jean Rovarino était à la réalisation et Mathias Volant est notre attaché de production. Merci encore PV Nova,
merci,
on vous
Thomas.
Retrouve sur internet régulièrement et sur scène avec les Franglaises.
Exactement.
À la rentrée et sur votre BD Splash
qui en librairie.
Sort tout bientôt en librairie. Anaïs, on attend impatiemment la sortie de ce live in Zurich entièrement chanté en yodel comme sur une idée initiée par Jean-Baptiste Guillot, votre voisin qui est venu lui aussi jouer avec nous, Jean-Baptiste Guillot du label Born Bad. Encore une fois, je vous le recommande, achetez, écoutez les disques du label Born Bad. Merci à tous chers auditeurs et à la semaine prochaine.
Quoi ? C'est fini ?
Ah oui ? T'as aimé ?
Je sais pas, je me suis endormi dès le début.
Eh ben, t'as pas raté grand-chose.